Et nous entrons cette semaine dans une importante séquence climatique avec des rendez-vous qui vont se dérouler partout dans le monde. Il y aura des grèves, des marches, une conférence du GIEC à Monaco, un sommet climat de l'ONU à New York. Et tout commence aujourd'hui avec la publication de deux modèles climatiques rédigés par des scientifiques français qui annoncent donc qu'en 2100, la température du globe pourrait être encore plus élevée que prévu. On y revient dans un instant avec mon invité David Salassi-Melia. Il est responsable de la modélisation du climat à Météo France, l'un des deux organismes français ayant travailler sur ces nouveaux modèles qui vont donc alimenter le sixième rapport du GIEC attendu pour 2021. Vos questions à mon invité pour parler donc du climat du futur, 01 45 24 7000, franceinter.fr et le mot-clé la TAC. Camille Cronier, bonjour Camille.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et vous passez au vert dans quelques instants.
Et on chante auprès de mon arbre, je vivais heureux.
Dans la deuxième demi-heure, vos solutions pour la planète avec aujourd'hui Pauline, une auditrice qui nous parlera de l'Observatoire des saisons, un programme de science participative pour mieux comprendre justement l'impact du changement climatique sur les êtres vivants. Un nouvel épisode du feuilleton de la semaine sur notre famille Zéro Déchet qu'a suivi Julie Pietri. Et puis enfin, notre invité découverte est un naturaliste qui va nous faire partager l'intimité de la loutre, ce petit mammifère semi-aquatique tout à fait passionnant, vous le verrez. Voilà pour le sommaire de cette Terre au carré réalisée par Valérie Ayestaraï.
La Terre au carré. Sur France Inter.
Bonjour David Salassi-Melia.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes responsable donc de la modélisation du climat à Météo France, l'un des deux organismes français qui produit donc des simulations à long terme avec l'Institut Pierre-Simon Laplace. Six ans donc après le dernier rapport du GIEC sur le réchauffement de la planète, vos deux groupes de modélisation ont publié ce matin les nouvelles simulations pour l'horizon 2100 et les résultats sont clairs. En 2100, la température du globe devrait être encore plus élevée que prévu.
Oui, quel que soit en tout cas le scénario d'émission de gaz à effet de serre, le climat va continuer à se réchauffer, ça c'est une certitude. Alors bien sûr, le climat se réchauffera d'autant plus que les émissions de gaz à effet de serre, en particulier de CO2, sont importantes et ça peut aller jusqu'à 5 à 6 degrés au plan mondial par rapport à actuellement.
Ouais, donc l'ampleur est très importante, température moyenne donc à la surface de la Terre qui pourrait être comprise donc entre 5 et 6 degrés, en tout cas plus élevée qu'au début du 20e siècle, voire 7 degrés dans le pire des scénarios, c'est ce qui ressort.
Alors 7 degrés, ça c'est plutôt par rapport à 1900 en fait. Mmh. Et là en fait, quand on prend cette référence de 1900, on se connecte directement aux objectifs des négociations climatiques internationales, c'est-à-dire l'objectif de 2 degrés et si possible 1 degré demi comme décidé à la COP21 à Paris en 2015. Mmh. Donc pour l'instant, on ne prend pas tout à fait ce chemin. Et ce qui est vraiment évident, c'est qu'il faut éviter le chemin du pire jusqu'à 6 ou 7 degrés de réchauffement.
Mmh. Quelles sont les régions du globe les plus concernées par des élévations très importantes de température? Vous en avez identifié?
Il faut vraiment souligner en effet que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Quand on parle de, par exemple, 6 degrés de réchauffement mondial, c'est plutôt plus sur les continents que sur les océans. Mmh. C'est plutôt autour de 7 degrés sur les continents. Et sur certaines régions continentales, en particulier les régions les plus au nord, on peut être sur des hausses de température qui sont de l'ordre de 10 degrés, comme par exemple au nord de la Sibérie ou dans les régions polaires, l'Alaska, le nord du Canada.
Ouais. Donc l'Europe, hein, en ce qui nous concerne, 7 degrés au niveau des simulations.
En France, ce n'est pas tout à fait à exclure, hein, même si ce scénario est vraiment le scénario du pire, on espère tout de même qu'on suivra une meilleure trajectoire que celle-là.
Ouais, donc 6,5 degrés, 7 degrés en 2100, c'est 1 degré en plus que dans les précédentes estimations. C'est absolument énorme. Il faut se rendre compte de ce que ça représente là quand même.
Ah, il se trouve que, oui, alors déjà 1 degré, bon, ça paraît forcément pas énorme par rapport à des prévisions météorologiques.
Bien sûr, ouais.
Les températures varient énormément d'une journée à l'autre. Mais un degré, c'est déjà le réchauffement qu'on a connu au plan mondial depuis 1900. Mm-hmm. En France, plutôt 1,5 degré. Donc 1 degré de plus par rapport aux précédentes estimations, oui, c'est beaucoup. Et effectivement, cette génération de modèles chauffe plus que la précédente.
Ouais.
Ce qui pose question actuellement, d'ailleurs, c'est en cours d'analyse.
Qu'est-ce que vous dites, vous, en tant que scientifique, quand, au bout de la chaîne, justement, après que les calculs, les algorithmes aient mouliné, vous tombez précisément sur ce genre d'estimation? Qu'est-ce que vous dites entre chercheurs?
Alors, je ne vous cache pas que ça crée des discussions dans la communauté de recherche. On voit de plus en plus de modèles, parce que les modèles français qui réchauffent à ce niveau-là ne sont pas les seuls. Mmh. D'autres modèles se sont mis à réchauffer plus que la génération précédente.
Quand vous dites à réchauffer, c'est-à-dire que les résultats montrent un réchauffement, hein, on est d'accord.
Voilà, c'est ça. Le climat qu'ils simulent, en tout cas, est plus chaud en 2100 que ce que prévoyait la précédente génération. Mmh. Et ça, excusez-moi, il faut vraiment le comprendre. C'est notre responsabilité. Pour l'instant, on n'a pas finalement de raison d'exclure qu'un tel réchauffement puisse un jour se dérouler, en tout cas si le scénario d'émissions de gaz à effet de serre est le pire. Hein, ça encore, il faut le dire, dans la mesure où les modèles sont tout à fait réalistes sur la période écoulée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, également, on voit des canicules, comme en 2003, comme cette année, les deux canicules de l'été 2019, mais qui sont cohérentes finalement à ce que nous indiquent les modèles jusqu'à présent. Mmh. Et donc, on n'a pas de raison particulière de douter que les modèles, finalement, fassent du mauvais travail par rapport à ce qui pourrait se passer dans le futur.
Ouais. Donc, on est loin, finalement, de l'accord de Paris, du maintien de la température à 1,5 degré. Là, on est vraiment dans des scénarios qui explosent absolument tout.
Oui, alors, bon, encore une fois, ce scénario à 6 ou 7 degrés par rapport à 1900, c'est vraiment le scénario du pire, c'est-à-dire un scénario où les émissions de gaz à effet de serre ne seraient absolument pas contrôlées. Mmh. Nous testons aussi les modèles avec des scénarios qui sont beaucoup plus restrictifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre, des scénarios en particulier qui sont compatibles avec le réchauffement maximum de 1,5 degré ou 2 degrés depuis 1900.
Oui. Sauf que ça demande des efforts tout à fait particuliers et on en est loin pour l'instant.
On en est très loin. C'est sûr qu'arriver ne serait-ce qu'à 2 degrés, rien que ça demande des efforts. Il faut commencer à diminuer les émissions mondiales de gaz à effet de serre dès maintenant, alors qu'actuellement elles augmentent au plan mondial. Et il faut arriver à ce que ces émissions de gaz à effet de serre deviennent nulles vers 2080. Donc une neutralité carbone globale et ensuite elles doivent même devenir négatives. 1,5 degré, comme on peut l'imaginer, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'il faut que les émissions soient nulles vers 2060 et ensuite négatives. C'est-à-dire qu'on doit retirer du dioxyde de carbone de l'atmosphère.
Ouais. Donc il va falloir des mesures politiques très très fortes, évidemment, à l'échelle de la planète. Et pour l'instant, franchement, on en prend pas le chemin, là. Qu'est-ce que vous en pensez ?
On n'en prend pas tout à fait le chemin. Et même actuellement, les engagements des États, donc qui ont été validés par de nombreux États à l'issue de l'accord de Paris de la COP21, nous emmènent plutôt aujourd'hui vers un objectif à 3 degrés, voire un petit peu plus.
Ouais.
Et c'est pour ça qu'il est vraiment important de réviser les engagements des États dans un sens toujours plus ambitieux. C'est d'ailleurs notamment le sens du sommet de New York cette semaine, mais aussi de la COP25 qui aura lieu au Chili au mois de novembre. Donc il faut vraiment faire beaucoup plus. Et donc on voit aussi que les populations sont conscientes du problème, elles sont informées et elles réclament des engagements plus forts de la part des États.
Alors on a déjà des questions d'auditeurs que je vous transmettrai tout à l'heure, David Salassemilia, sur les conséquences évidemment. Est-ce qu'on arrive déjà à estimer les conséquences de telles simulations du climat ? Ça vous nous direz si on a déjà des réponses à cette question. En attendant, est-ce que d'autres organismes comme vous, parce que là on a vraiment le résultat de deux modélisations française. Est-ce que d'abord d'autres laboratoires travaillent dans le monde exactement sur les mêmes simulations ? Et est-ce que tous les résultats convergent finalement avec des résultats similaires ?
Alors, ces simulations françaises que nous avons présentées ce matin sont les simulations de deux modèles en particulier. Et ce ne serait pas raisonnable de baser une décision mondiale sur juste deux modèles. En réalité, des modèles aujourd'hui qui ont publié leurs données, qui les ont mises à disposition sur des serveurs accessibles à tout un chacun. Mmh. Vous pouvez aller en télécharger si vous le souhaitez, avec peut-être un peu d'effort. En fait, on a aujourd'hui une trentaine de modèles qui proposent des données. Alors, pas de manière aussi riche que les deux modèles français qui ont été les deux premiers à fournir des données en août de l'an dernier. Et donc, c'est vraiment cette masse de données qu'il faut analyser. Il faut regarder les réchauffements simulés par tous ces modèles pour essayer de voir quelle est l'incertitude. Mmh. Mais finalement, il y a bien d'autres modèles que les deux autres modèles français qui simulent des réchauffements plus intenses que ce qui était simulé il y a 5 ans seulement.
On va y revenir dans un instant. Hein. Ces modèles, en tout cas pour les Français, sont sortis ce matin et vous répondrez aux messages des auditeurs qui arrivent déjà très nombreux au standard et sur la page de La Terre au Carré. David Salassemilia, à tout de suite.
France Inter. La Terre au Carré.
Camille Cronier, vous êtes allée rendre visite hier à Thomas Braille, cet homme perché dans un arbre en face du ministère de l'écologie depuis bientôt quand même 3 semaines.
Oui, ça fera précisément 3 semaines, demain matin à 6h. Mathieu, Thomas Braille veut protester contre l'abattage d'arbres à Condon dans le Gers. Vous savez, c'est la commune du Bonheur et dans le Pré.
Ah oui.
Et l'abattage d'arbres en général, hein, parce que des dizaines de villes et de villages sont concernés partout en France. Il est donc à 15 mètres tout là-haut dans un platane sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Du coup, pour l'interviewer, on sort l'escabeau.
C'est bon là ?
Ça va, vous n'avez pas peur ?
Non, ça va.
Bonjour Thomas, ça va ?
Ouais.
Et le voilà, lui, presque tête en bas, pendu à sa corde, hors de question de mettre un pied à terre.
Non, parce que j'estime que si je descends, c'est comme si j'avais perdu la lutte.
Alors la lutte, c'est donc d'éviter l'abattage de 25 arbres, dit-il, à Condon, dans le cadre de l'aménagement d'une promenade pour les piétons.
Moi, je demande juste la grâce de 25 arbres, c'est pas la mort, quoi. Parce que les arbres, c'est vivant. Le problème, c'est qu'on croit que c'est du mobilier urbain. Je n'admets pas qu'on coupe un arbre comme si c'était lampadaire ou un simple banc qui vous plaît plus. On nous parle de réchauffement climatique, on nous parle qu'on a besoin des arbres dans les villes un petit peu partout, ça sert de climatiseur et on continue à les couper, mais on marche sur la tête quoi. Et c'est dans les vieux arbres qu'il y a le plus de biodiversité, il faut quand même le savoir.
Alors, discours bien rodé de cet arboriste grimpeur de profession, habitant du Tarn et pas du Gers, hein, qui s'est donc transformé en défenseur perché.
Quel recours il me reste, à part de monter dans un arbre devant le ministère et de faire le buzz avec les médias? Mais j'ai pas trouvé autre chose, je suis désolé quoi. Je suis pas là pour embêter, moi je suis là juste pour faire comprendre qu'on a besoin des arbres. Tout simplement, on a besoin des arbres.
Et ça ne laisse pas indifférent, en le voyant se balancer avec son harnais. Tout le monde lève la tête ou s'arrête, même les touristes étrangers.
We're taking a picture. I think it's cool.
Oh, very nice.
It's crazy, but it's great.
Voilà, un peu fou, mais top, dit cette Colombienne par exemple. Même discours chez cette passante de 80 ans.
Génial, je trouve ça formidable. Admirative, solide.
Et sur le livre d'or, Mathieu, il y a aussi un mot, figurez-vous, de l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve.
Ah oui.
Mon soutien pour cette belle cause qui appelle courage et ténacité. Alors j'ai quand même vu un voisin pas content.
Il nous emmerde surtout.
Ah bon?
Oui.
Pourquoi?
Mais parce que de toute façon, il ne se passera rien. Vous allez voir, il emmerde moi, mais personne d'autre.
Et pourquoi il vous emmerde, vous ?
Parce qu'il est devant ma fenêtre. Et donc, voilà, il est dans mon salon. Je le vois tout le temps. C'est une méthode à la con.
En tout cas, Thomas Braille n'a pas de date limite. Tant pis s'il ne voit pas sa femme et son fils de 2 ans. Tant pis aussi pour le bruit et la pollution.
Ah ouais, je crois que c'est la rue la plus bruyante de Paris, je pense. Vous voyez, j'ai mal à la gorge depuis que je suis ici. Mais là, je peux vous assurer que je suis en train de morfler, mais sévère.
Alors, la ministre de l'écologie, juste en face, elle fait quoi ? Eh bien, elle n'a pas traversé la rue depuis 3 semaines. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait, moi ?
Hello.
J'ai appelé son cabinet, voilà la réponse.
Je vous confirme qu'Elisabeth Borne a pris la décision de ne pas monter en haut d'un arbre, mais effectivement que son bureau est ouvert quand il le souhaite.
D'accord, bon, mais c'est à lui de venir à vous.
Bah, ouais, ça peut sembler logique aussi.
Et de toute façon, ajoute son conseiller, ça ne relève pas de la compétence de la ministre, mais du maire. Bon, alors donc c'est reparti.
Bonjour et bienvenue à la mairie de Condon.
Voilà, avec la musique du Bonheur et dans le Pré, vous entendez ?
Oui.
Gérard Dubrac, maire depuis 35 ans de Condon, a pris mon appel et je vous préviens, il est très en colère.
Arrêtez de me faire passer pour le dernier des monstres qui est en train de défigurer la planète. C'est tout le contraire que l'on fait. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? C'est pour faire un lieu de promenade pour les piétons. Et les arbres que l'on met, c'est pas des arbres qui font 50 cm de haut. Ce sont des arbres qui sont aujourd'hui faits en pépinière et qui pèsent entre 300 et 400 kilos. Enfin franchement, où est le problème là ? Le problème.
Alors il en a lui aussi des arguments, le maire de Condon. Il précise qu'il ne s'agit pas de 25 arbres mais de 16 et que tout a été fait dans le respect des règles malgré l'article L350-3 du Code de l'environnement qui interdit l'abattage des arbres sauf dérogation.
Monsieur Braille est un monsieur qui en a rien à foutre des arbres. Il ne pense qu'à sa notoriété, à faire le pitre dans un arbre en pensant que c'est comme ça qu'il se fera connaître. Ce dossier est un dossier qui a été fait comme il faut, qui a passé toutes les méandre de l'État et le tribunal m'a donné raison. Alors je vois pas pourquoi je le ferais pas.
Mais le rapport de l'ONF ne recommande de n'en abattre qu'un seul.
Non, pas du tout.
Si je l'ai sous les yeux, je l'ai sous les yeux.
Non.
Et bien pourtant, si, un rapport d'août 2017 donc de l'Office national des forêts qui a étudié les 91 arbres de la promenade et n'en classe qu'un, le platane numéro 42, à abattre. Le reste, en fait, c'est un principe de précaution, dit le maire, hein, qui se méfie des accidents et des chutes d'arbres. Et cela dit, il n'a pas encore de date à nous donner pour l'abattage de ces arbres, pendant que Thomas donc reste perché là-bas sur le boulevard Saint-Germain.
Voilà, et on le salue car je sais qu'il écoute La Terre au Carré. Camille Passauvert est à réécouter évidemment sur franceinter.fr.
David Salassimilia, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle des arbres, jeunes et anciens? Est-ce que c'est un rôle vital dans le climat, tout simplement?
Oui, les arbres sont utiles pour le climat, dans la mesure où, lorsqu'ils sont en phase de croissance, ils captent du CO2, ils fixent du carbone. Et donc, en tout cas, la déforestation, raser des forêts complètement, c'est source d'émissions de dioxyde de carbone et ça aggrave le problème. Une autre utilité des arbres en ville, c'est que ça permet de mitiger un petit peu les températures, notamment en permettant la baisse des températures la nuit.
Il y a des écarts très importants d'ailleurs, dans certains îlots où on trouve des arbres et ceux où on n'a que du béton.
C'est vérifié, notamment à Météo France, par de la modélisation d'une ville comme Paris.
On peut avoir quel écart de température, par exemple ?
On peut avoir 1 ou 2 degrés de moins, finalement, lorsqu'on a bien végétalisé, par rapport à du tout béton.
David Salas, Emilia, vous restez avec nous, évidemment, car vous êtes notre invité pour parler donc de simulation du climat du futur, évidemment, et les messages des auditeurs qui nous rejoignent dans la Terre au carré.
Si on peut oublier tout ça, le stadium, défense, arena, les charrues, le concours sous la douche. Si on peut ce soir effacer le carton, 3 millions d'entrées, simplement dire ce qui nous touche. Si on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition. Si on peut regarder ailleurs, pas le clash, pas les chroniqueurs, quelquefois chercher l'élégance. Si on peut trouver la beauté, un visage par le temps froissé, dans la nuit, un danseur qui danse. Si l'on peut vivre comme Agnès, se parler à deux dans la pièce et ressentir une émotion. Si on peut vivre une vivarda, marcher sur le sable comme ça, faire une vie hors compétition.
Varda, c'était Vincent Delerme à l'instant.
La Terre au carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
David Salas, Emilia, vous êtes donc responsable de la modélisation du climat à Météo France et c'est l'un des deux organismes français qui a travaillé donc sur ces nouveaux modèles qui vont alimenter le 6e rapport du GIEC attendu pour 2021 et on parle avec vous du climat du futur. Il y a beaucoup de questions des auditeurs qui s'intéressent vraiment à ce sujet, au standard par exemple, au 01 45 24 7000. Et on va commencer avec vous Frédéric, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous appeler. Votre question à notre invité s'il vous plaît.
Alors ma question, c'était pour essayer de sensibiliser davantage le grand public qui apparemment ne
n'est pas assez sensibilisé par le fait du réchauffement climatique, qui est réel, hein, qui va venir, voilà. Est-ce que ce serait pas plus judicieux à ce moment-là de parler de bouleversement climatique qui englobe du coup avec lui une modification à l'échelle planétaire des précipitations et donc une redistribution probable des précipitations à l'échelle de la planète? Et là où les zones, dans les zones tempérées, où il y a la majorité de la population du monde qui vit avec des cultures qui poussent tout à fait aisément, avec ce bouleversement climatique, est-ce qu'on n'aurait pas un risque, du coup, d'avoir des cultures beaucoup plus difficiles à obtenir dans les zones tempérées, et dans ce cas, des difficultés à tout simplement à se nourrir?
Alors, voilà. Il y a plusieurs questions, finalement. Dans...
En parlant que de la température, je crains que les personnes qui... Il y en a même, dans mon entourage, hein, j'ai discuté de... une fois ou deux comme ça, il y a des personnes qui disent même, oh ben c'est bien, on fera des économies de chauffage l'hiver, etc. Mmh. Vous voyez ? Voilà.
Alors,
on voit plus que la température.
David Salas, Emilia, votre réponse à Frédéric. D'abord sur les questions de vocabulaire, est-ce qu'on y réfléchit pour communiquer justement au grand public ce type de résultat, à choisir les bons mots ?
Bouleversement, dérèglement, changement, j'avoue que je ne sais pas trop. Mmh. Donc, je dirais que c'est plutôt une question de goût. Mais je reconnais, là je suis d'accord avec Fred finalement, sur le fait que réchauffement est peut-être un peu réducteur. Mmh. On pense qu'à la température, d'ailleurs on n'a parlé que de ça depuis le début de l'émission. Une autre chose vraiment inquiétante à mon avis, c'est l'évolution des précipitations, l'assèchement de certaines régions, la réduction des pluies en particulier dans notre pays et plus particulièrement dans le sud du pays.
Et on le voit déjà, hein.
On le voit aujourd'hui.
On attend les pluies, on est en déficit hydrique dans de nombreuses régions.
Alors est-ce que c'est une manifestation du changement climatique ? Ça c'est toujours une question qui se pose régulièrement. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces événements de sécheresse sont de plus en plus fréquents et de plus en plus étendus, et vont finir par demander une nécessaire adaptation des modes d'agriculture en particulier.
Mmh. Alors justement, Olivier nous dit, j'ai cru comprendre que selon le GIEC, avec plus 6 degrés, les trois quarts de l'humanité vivront 12 mois sur 12 dans des conditions incompatibles avec la vie humaine. Comment l'économie mondiale peut-elle continuer à être en croissance face à de telles prédictions ? Est-ce que d'abord vous êtes d'accord, puisqu'on fait de la sémantique sur le mot de prédiction ?
Prédiction, je dirais pas ça. Bon, à la rigueur, pour les courtes échéances, à quelques jours, bon, peut-être qu'on peut parler de prédiction, même si je préférais parler de prévision, de Météo France en particulier.
Mais là, on est même dans des projections.
On parle plutôt de projection, c'est-à-dire que ça inclut une notion d'incertitude. On ne peut pas dire la température en 2100 sera 6 degrés ou 2 degrés. En réalité, personne n'en sait. Mm-hmm. Rien, vu que ça inclut à la fois une incertitude liée au modèle eux-mêmes, et aussi une incertitude face au scénario d'émissions de gaz à effet de serre que nous allons suivre. C'est-à-dire si nous réduisons beaucoup les émissions de gaz à effet de serre, on sera plutôt sur 1 degré de plus ou 2. Et si on ne fait rien, eh bien on sera sur des conditions très très chaudes.
Dans ce type de rapport, est-ce qu'il y a des recommandations justement sur les pratiques, les bonnes pratiques à avoir ? Là, on parle de l'économie dans la question d'Olivier, face à la croissance précisément. Est-ce que vous donnez ce type de recommandations ?
Alors, le GIEC, oui, a une partie de ses activités qui traite d'économie directement. Bon, par exemple, en termes de recommandations, on peut lire le dernier rapport du GIEC, hein, sur la désertification, l'utilisation des sols, hein, de début août, où il y a par exemple des recommandations du type il faut manger moins de viande, parce que scientifiquement, ça permet d'émettre moins de dioxyde de carbone. Mmh. Et ça aussi, c'est une partie de la solution à laquelle nous pouvons tous contribuer.
Donc, c'est pas juste des recommandations des végans, il y a aussi maintenant des scientifiques, et le GIEC donc, qui aussi fait ce type de recommandations.
Hein. C'est étayé par de la science, en fait, derrière. Il y a du carbone derrière tout.
On a une remarque de Charlotte par mail qui dit « Je suis choquée parce que j'ai entendu concernant un réchauffement climatique à 5 degrés. On nous parle d'une canicule mortelle comme en 2003 chaque année, mais à plus de 5 degrés, les conséquences seraient désastreuses. Ce serait plus qu'une simple canicule. Comment arriver à une prise de conscience si on ne dit pas la vérité ?»
Je dirais que la vérité est déjà dans la question, dans la mesure où oui, 5 degrés de plus au plan mondial, ça veut dire tous les ans une canicule du type de celle de l'été 2003. Alors une canicule en 2003, bon, effectivement, il y a eu quand même énormément de morts en Europe et en France en particulier. Je pense que ça a fait quand même bouger les populations. C'est un type d'événement qui participe finalement quelque part à l'action. Mais ça a affaibli aussi beaucoup de... On revient sur les arbres, beaucoup de forêts finalement, alors qui peuvent supporter de telles conditions une année, mais certaines forêts ne supportent pas. Il y a eu des tas d'arbres qui sont morts. Et la répétition de ce type d'événement tous les ans à la fin du 21e siècle ferait qu'on n'aurait plus du tout le même type de forêt, le même type d'environnement, de végétation.
Environ 20 000 morts pour la canicule en 2003 en France.
Jacques est en ligne avec nous, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Jacques. Votre question, s'il vous plaît.
Je suis auditeur développement durable de moyennes et de grandes sociétés et je témoigne que les moyennes et grandes sociétés font non seulement un effort, mais ont des objectifs de réduction, essayent, arrivent de les atteindre. D'où je pose la question sur deux autres plans. C'est premièrement les politiques qui, hélas, ont un temps des politiques très court. Comment peuvent-elles se mettre à agir, car elles n'agissent pas? Et deuxièmement, et surtout, comment moi, je peux agir, puisque c'est la question essentielle, dans tous les éléments, que ce soit en achetant une nouvelle voiture ou ne l'achetant pas, que ce soit en achetant un nouveau téléphone, en passant mon temps sur Internet qui mange de gaz à effet de serre, ou n'en passant pas, en dégradant ma santé qui va poser des problèmes de santé, donc de consommation de gaz à effet de serre nécessairement. Voilà, comment puis-je revoir ma vie pour qu'elle soit beaucoup plus paisible et voilà, c'est la question que je me pose.
Eh bien, qu'on pose aussi à notre invité. Alors.
Et je pose à chacun d'entre vous et à chacun d'entre nous.
Alors, David Salas, Imelia, pour répondre à Jacques.
Au plan personnel, il y a vraiment beaucoup de leviers d'action qui ne sont pas forcément très simples à appliquer. De manière froide, il faut essayer de voir d'où viennent les émissions de dioxyde de carbone, en particulier nos propres émissions. Elles viennent notamment du fait que nous nous déplaçons beaucoup, trop peut-être. Il faut essayer de limiter les déplacements, en tout cas ceux qui induisent des émissions de gaz à effet de serre. Éventuellement, peut-être changer de voiture, mais là encore ce n'est pas simple, parce qu'il faut intégrer que dès qu'on achète une voiture neuve, il a fallu des émissions de gaz à effet de serre pour la produire. Donc ça, tout ça n'est pas évident. On peut aussi avoir des actions à travers l'alimentation. Faire une transition vers une alimentation moins carnée, parce qu'une alimentation carnée, eh bien, ce sont des animaux qu'on consomme, qui consomment de la végétation, et ça pose aussi le problème de la suffisance alimentaire pour tous. Et ça, c'est vraiment abordé aussi dans le rapport du GIEC. Et derrière tout ça, eh bien, bon, d'un autre côté, il y a de l'action politique. Il y a le sommet de New York actuellement. Quand même, les dirigeants essayent, je pense, de discuter pour essayer de revoir un peu les cibles d'engagement de gaz à effet de serre pour essayer aussi, de manière très très large, de résoudre un peu cette question-là.
Alors, on a une question très pratique de Benoît qui prépare visiblement son déménagement. Où vaudra-t-il mieux vivre à la fin du siècle avec une telle hausse de température?
Alors ça dépend s'il souhaite rester en France ou s'il est ouvert à déménager un petit peu plus loin. Mais par exemple, si on regarde les cartes de réchauffement en France, on voit que dans le nord-ouest de la France, en Bretagne ou en Normandie, pour ne pas la citer, le réchauffement est quand même moins important. Ou alors aussi en zone de montagne, par exemple, si on a envie d'avoir un peu moins chaud, il suffit de monter en altitude. Peut-être que des régions comme les régions montagneuses qui sont relativement peu habitées, finalement, aujourd'hui, trouveront plus de succès dans le futur.
Alors Manuel est sceptique, il nous dit « Si c'était un réchauffement naturel et inéluctable, comment expliquer les réchauffements passés dans l'histoire de la Terre alors qu'il n'y avait pas de CO2 anthropique industriel ou humain ?» Et beaucoup de gens se posent la question, d'ailleurs, elle mérite d'être posée.
Alors déjà, j'aimerais vraiment beaucoup que ce soit juste une variation. J'avoue que ça me rassurait, mais tous les éléments de preuve qu'on peut avoir, notre connaissance de la physique de l'atmosphère et du climat en général, nos modèles, tout converge pour nous indiquer que le réchauffement est bien lié à l'action de l'homme.
Laurent demande quelle est la part de l'homme dans le réchauffement. On arrive à l'estimer précisément aujourd'hui?
C'est l'essentiel, ce sont les mots du GIEC, l'essentiel du réchauffement anthropique constaté jusqu'à présent est lié à l'action de l'homme. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier vraiment, il y a eu des réchauffements dans les périodes anciennes qui ont été extrêmement intenses, même plus intenses que celui qu'on connaît aujourd'hui. Mais des réchauffements qui se sont déroulés sur des périodes de temps extrêmement longues, pas sur 100 ans, comme c'est le cas actuellement. C'est ça vraiment qui est préoccupant.
Allez, deux dernières questions très rapidement. Gilles, dans quelle mesure les périodes de glaciation peuvent compenser le réchauffement climatique? Et puis Christian, est-ce que vous prenez en compte dans vos modèles les éruptions volcaniques inévitables qui modifient très sensiblement le climat pendant des années, qui peuvent refroidir là, pour le
Alors,
coup.
Hein. Sur les deux points, le sujet là, de la glaciation que nous devions connaître dans 60 000 ans a déjà été abordé par des recherches. Elle pourrait ne pas avoir lieu si on émet énormément de gaz à effet de serre en atmosphère. Elle pourrait être complètement entravée. Par ailleurs, les éruptions volcaniques sont prises en compte dans les modèles et elles ont, comme ce qu'on constate dans les observations, en modélisation, un effet, mais sur quelques années seulement. Après l'éruption, tout revient comme avant.
Merci beaucoup David Salassimli. On aurait pu parler encore pendant de longues minutes avec vous à l'occasion donc de l'apparition ce matin donc de ces résultats de simulation du climat du futur avec également l'Institut Pierre-Simon Laplace. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans la Terre au carré. Merci. Dans un instant, vos solutions pour la planète avec Pauline, une auditrice qui anime un programme de sciences participatives pour mieux comprendre justement l'impact du changement climatique. On la retrouvera juste après les infos puisque sur France Inter, il est pile 14h. Laetitia Gaillet pour les infos, bonjour.
Bonjour, l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, c'est pas encore ça. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a fait aujourd'hui le point sur les entreprises de plus de 250 et 1000 salariés qui devaient publier leurs notes. Il apparaît donc que près de 17% de ces entreprises sont dans le rouge, soit environ 800 entreprises. Elles risquent toute une sanction financière si elles ne rectifient pas le tir dans les 3 ans. Muriel Pénicaud a aussi cité 4 entreprises de plus de 1000 salariés qui n'ont toujours pas publié leurs notes. L'association barinoise d'aide aux personnes âgées, Mutualité Anjou, Mayenne, Sépure dans le secteur du nettoyage et Jardel dans les services. Le 1er mars prochain, ce sera au tour des entreprises de 50 à 250 salariés à publier leurs notes sur l'égalité femmes-hommes dans l'entreprise. Le groupe Casino doit préciser le rôle des personnes qui l'emploient le dimanche dans son hypermarché d'Angers. C'est la demande aujourd'hui de l'inspection du travail. L'hypermarché Casino d'Angers est au cœur d'une polémique depuis son ouverture fin août car il n'a que des caisses automatiques. L'ancienne a prévu de répondre de manière circonstanciée, dit-elle, aux questions de l'inspection du travail, mais elle réfute aujourd'hui tout constat d'infraction. Le système électrique français a besoin de 33 milliards d'euros d'investissement sur 15 ans selon son gestionnaire RTE aujourd'hui qui présente son plan décennal. Ce seront des investissements nécessaires pour se moderniser, se numériser, développer les énergies renouvelables ou encore créer des interconnexions avec les pays voisins. L'évacuation d'un camp de migrants à Grande-Synthe dans le Nord, le site de La Voix du Nord explique que si l'opération s'est déroulée dans le calme ce matin, il y a eu des incidents ensuite dans 2 bus qui transportaient les migrants vers des centres d'hébergement sur l'autoroute A16. Selon le chauffeur d'un des bus, les migrants se sont agités, ils ont frappé les vitres pour exiger que le bus s'arrête. Certains ont menacé d'y mettre le feu. 5 personnes ont été interpellées. La politique migratoire de la France, eh bien on va en débattre fin septembre à l'Assemblée. Et Matignon, d'après l'entourage de Matignon, préparait un document de synthèse sur le sujet. Le texte compile les données des ministères de l'Intérieur, de la Santé et des Affaires étrangères. Hier soir, Emmanuel Macron lui a fixé le cap. Il faut regarder le sujet en face et ne pas le laisser à la droite ou à l'extrême droite. Un réseau de trafic de migrants et de drogue démantelé. 29 personnes ont été interpellées entre la France et l'Espagne, annonce d'Europol aujourd'hui. Ce réseau incitait notamment les mineurs non accompagnés à s'échapper des centres de protection en Espagne pour transporter de la drogue en Europe. 14 perquisitions ont été menées. Elles ont permis de trouver 200 kilos de cannabis et de saisir 33 000 euros. Enfin, l'exploit d'une Américaine venue à bout de la Manche. Sarah Thomas, 37 ans, survivante d'un cancer du sein, est devenue aujourd'hui la première personne à avoir traversé la Manche à la nage 4 fois d'affilée. Elle a réalisé la performance en 54 heures. Elle est arrivée à Douvres, dans le sud de l'Angleterre, ce matin, après 2 allers-retours donc avec le Cap Griné. Bon, la traversée n'a pas été de tout repos, puisque l'eau salée lui a brûlé, dit-elle, la gorge, et elle a été piquée au visage par une méduse.
14... Bravo à elle, quand même.
Bravo. 14h30 sur Inter, la suite de La Terre au carré, Mathieu.
Merci beaucoup, Laetitia Gaillet. À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
La Terre au carré.
Alors, qu'est-ce qu'on vous propose au menu de cette deuxième demi-heure ? Eh bien, nouvel épisode du feuilleton signé Julie Pietri dans une famille zéro déchet de la région parisienne. Et puis notre invité découverte est naturaliste et il va nous parler de la loutre.
Ah, ça va faire du bien parce qu'il ne faut pas trop déprimer non plus.
Cet adorable mammifère semi-aquatique. Mais pour le moment, vos solutions pour la planète. Et nous sommes en ligne avec vous, Pauline. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Pauline, vous êtes animatrice de programme de sciences participatives, on aime beaucoup ça, donc on souhaitait en parler avec vous, au sein de cette association Tella Botanica, et vous animez Pauline en particulier l'Observatoire des Saisons, vous êtes en charge de l'appel à Observation Canicule 2019. Je ne sais pas si vous avez entendu avec notre invité précédent, mais il y aura du boulot dans les années à venir pour vous.
Oui, sûrement.
Avec le réchauffement qui est annoncé effectivement, Tella Botanica c'est une association quoi de botanistes au départ ?
Oui, alors c'est une association qui existe depuis plus de 20 ans maintenant et qui fédère les botanistes francophones à travers des outils web collaboratifs Et donc aujourd'hui, on a plus de 46 000 personnes qui sont inscrites via le site internet, tellabotanica.org, et ça va des débutants aux professionnels, toutes les personnes qui s'intéressent à la botanique.
Donc si on est juste amateur passionné, on peut vous joindre.
Voilà, peu importe votre niveau, vous pouvez donc naviguer sur notre site internet librement et vous y inscrire si vous le souhaitez.
Et alors une fois qu'on est inscrit sur votre site internet, c'est quoi l'idée ? C'est de faire des observations dans la nature ?
Alors, il y a beaucoup de projets différents autour de la flore qui sont souvent des projets participatifs, comme l'Observatoire des saisons dont je suis animatrice. Et donc, pour le coup, l'Observatoire des saisons, c'est un programme de sciences participatives qui est imaginé par des chercheurs il y a 12 ans maintenant, des chercheurs du CNRS, avec notamment Isabelle Schwinn, qui cherchait à mieux comprendre l'impact du changement climatique sur les êtres vivants. En fait, ces chercheurs ils se sont rendus compte que les rythmes saisonniers des végétaux, mais aussi des animaux, qui étaient jusqu'ici à peu près stables, se mettaient tout à coup à changer. Et pour comprendre ça, ils ont monté l'Observatoire des saisons pour proposer aux citoyens d'étudier la phénologie.
Qu'est-ce que c'est que cette science? Alors, exactement?
La phénologie, en fait, c'est tout simplement l'observation des rythmes saisonniers des plantes et des animaux au cours des saisons. Donc, par exemple, on va observer des événements qui ont cours au rythme des saisons chez les êtres vivants. Donc, par exemple, quand une plante va fleurir ou quand un papillon va apparaître au stade adulte.
Et donc, on vous fait remonter ça. Par exemple, si je suis dans un jardin, je vais observer l'évolution de mes fleurs ou l'évolution des papillons que je vois au cours de l'été et je dois vous faire remonter tout ce qui se passe, en fait, concrètement.
Voilà, parmi une liste de plantes et d'animaux, donc par exemple un participant peut observer le cerisier dans son jardin au fil des saisons et surveiller différents stades qui sont principalement donc la feuillaison, donc quand est-ce que les feuilles vont être étalées après l'éclosion des bourgeons, quand est-ce que va y avoir la floraison, la maturation des fruits et puis la sénescence, c'est-à-dire la chute des feuilles ou le changement de couleur à l'automne.
Alors Pauline,
et donc en notant les dates précises de ces stades chaque année, on peut voir un peu l'évolution des rythmes saisonniers au fil du temps à relier avec le changement climatique.
Alors justement, l'appel à observation canicule 2019, ça consiste en quoi ? C'est même chose, c'est observer comment les plantes évoluent suite à ces grosses chaleurs qu'on vient de vivre ?
Oui, c'est ça. En fait, cette année, il y a eu plusieurs épisodes de canicule qui ont touché la France et les végétaux. Et du coup, avec les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques, on a eu l'idée de lancer un appel à observation des dégâts subis par les végétaux, notamment suite à la canicule de juin. Et donc, on a développé un outil de saisie en ligne, donc une plateforme où tous les citoyens peuvent faire leurs observations avec des photos et des commentaires des dégâts subis sur les végétaux dans leur jardin ou autour de chez eux.
Et les résultats cette année, alors, c'est quoi qui a le plus pris ?
Alors, globalement, on a pu constater que les végétaux, ils n'étaient pas du tout préparés à cette forte chaleur en juin, puisqu'il y a eu un printemps très tardif. Et donc, la croissance des jeunes pousses a été stoppée. Par exemple, chez les pêchers et les abricotiers, on a vu que les fruits avaient complètement stoppé leur croissance. Et puis, on a vu aussi des chutes de feuillage. Dans le sud de la France, on a vu que la vigne avait aussi beaucoup souffert avec des brûlures sur les feuilles et puis sur les jeunes raisins. Et puis dans le nord-est aussi, on peut citer les dégâts sur les forêts dus à la canicule, mais aussi au manque d'eau avec les sécheresses. Et donc les sapins et les hêtres ont beaucoup souffert. Et les résineux, donc comme les sapins, il faut savoir qu'ils ne peuvent pas perdre leurs feuilles, donc ils n'ont aucun moyen de défense contre la chaleur.
En tout cas, toutes ces observations, on l'a compris, Pauline, sont extrêmement précieuses pour les chercheurs du CNRS et l'INRA, hein, d'ailleurs, qui utilisent ces remontées pour faire avancer aussi la connaissance. Donc, si on a envie de participer, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de Tella Botanica. C'est tella-botanica.org et évidemment, il est en lien sur La Terre au Carré pour savoir tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Merci beaucoup, Pauline. Merci d'être passée par chez nous. À bientôt.
Merci. Au revoir. À bientôt.
Si aussi vous êtes à l'origine d'une initiative pour la planète dont vous souhaitez nous parler, vous connaissez le principe. C'est franceinter.fr. La page de La Terre au Carré vous attend. Bonjour Julie Pietri.
Bonjour.
On poursuit aujourd'hui notre plongée dans le quotidien d'une famille zéro déchet.
Céline, Grégory et leurs trois enfants. Après les difficultés de mise en route, les quelques tensions familiales hier, la pratique maintenant, les courses. Comment acheter quand rien ou presque ne doit être emballé? Exit les grandes surfaces. Le plus souvent, le salut vient en fait des magasins bio ou des magasins de vrac. Ce jour-là, Céline a choisi plus simple, le marché, à côté de chez elle, toujours à Issy-les-Moulineaux, près de Paris.
Et ben moi je dirais tomate mozza et salade de carottes.
Avec des crevettes. Tu veux quoi
à la place des crevettes?
Je sais pas moi.
Bon, je vais aller chez Poissonnier. Julia, t'en veux des crevettes toi?
J'en sais rien.
Mais t'aimes ça? Les enfants? Il n'y a plus personne. Bon, j'ai ma liste d'idées là.
Tout est très organisé.
J'essaye. Bah, les courses à peu de déchets, ça nécessite d'anticiper un tout petit peu plus et pas de se dire chaque soir, tiens, qu'est-ce que je vais faire et hop, je vais à la supérette du coin et j'achète n'importe quoi. C'est un peu fastidieux sur le moment d'organiser les menus, ça paraît un peu psychorigide. Mais après, dans la semaine, c'est beaucoup plus tranquille. Donc, ça, c'est tous mes sacs à vrac.
Donc, c'est les petits sacs en tissu.
Ouais, des sacs en tissu. Alors, soit que j'ai acheté, soit que j'ai fait pour les fruits et légumes. Voilà, et puis là, donc, comme je vais passer chez le boucher poissonnier, je vais prendre des boîtes.
Donc là, des boîtes en plastique plus ou moins grandes.
Oui, donc là, en fait, en plus, je vais faire des provisions. Plutôt que d'acheter des trucs surgelés ou tout préparer au supermarché, en fait, je vais chez le boucher. Ils ont toujours un petit rayon traiteur avec des feuilletés, des petites aiguillettes, des choses comme ça que je congèle et ça permet de faire des repas rapidement, parce que zéro déchet, c'est pas tout faire soi-même non plus et passer des heures en cuisine. De toute manière, j'ai pas le temps.
Ça fait bizarre la première fois qu'on va voir un poissonnier, oui. Un boucher, qu'on lui demande « Tenez, mettez-moi cette pièce de viande dans une boîte ».
Oui, j'ai eu quelques moments de solitude. Le commerçant me regardait avec des yeux un peu ronds, disant « Qu'est-ce qu'elle me veut, celle-là, avec ses boîtes ?» Faut pas les braquer, faut que les gens comprennent la démarche. Puis si, surtout s'il y a 10 personnes qui attendent derrière, voilà, c'est un peu gênant de d'y passer 3 heures. J'y vais.
Bonjour mesdames.
Bonjour. Vous avez les crevettes bio?
Combien en voulez-vous?
On va en prendre une vingtaine.
4, 6 et 2 vins. Ça fait 2 ans et demi que la dame, elle vient et qu'elle présente son tupperware. Et quand on lui met un sac, elle nous fait rappeler des fois, elle nous reprend à l'ordre en nous disant « Non, je veux pas de sac ».
Vous aviez réagi comment à l'époque?
J'étais surpris parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font.
Ça vous pose problème?
Ça nous pose un peu de problème quand même. Oui, parce que quand on a des poissons à préparer, des dorades ou des barres et tout, c'est embêtant pour mettre dans des boîtes, quoi. Mais la prochaine fois, achetez un tupperware un peu plus grand, mais... On fait plaisir aux clients, c'est eux qui choisissent, donc voilà. Et vu les problèmes que le plastique emmène aussi, je crois que ça va venir par la suite comme ça. Hein. Donc voilà, vous savez tout.
Excusez-moi madame, dites-moi. Vous madame, là, vous êtes aussi en train d'acheter du poisson?
Oui.
Est-ce que vous avez amené vos petites boîtes?
Non, j'avoue. J'essaie de recycler les sacs, voilà, pour les légumes, et les boîtes, je ne suis pas encore mise. C'est bien d'avoir des contents. Merci beaucoup, pardon.
Vous pourriez vous lancer là-dedans?
Oui. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas à Paris, mais à côté de Paris. Je pense que c'est relativement facile ici. Je ne sais pas si c'est le cas en France, partout, en fait.
En fait, on se rend compte quand on commence à s'interroger sur cette démarche. J'ai l'impression de me réveiller. C'est comme si j'en étais un peu lobotomisée par cette histoire de j'achète, je consomme et je jette. Je ne sais pas si ça rend plus heureux, parce que quand on commence à s'intéresser à ça, ben forcément on est plus informé aussi de l'état du monde, etc. Et là, en fait, il y a le risque que ça devienne beaucoup plus flippant. Moi, avec mes petits emballages, en fait, je suis une toute petite goutte d'eau. Donc c'est ça qui est un peu flippant, de se dire, mais comment on va réussir à inverser la... ou à limiter les dégâts ou à inverser la vapeur. Mais bon, ça ne m'empêche pas de continuer, parce que je pense que c'est quand même la meilleure voie. Et puis que je ne reviendrai jamais en arrière, je ne reviendrai pas à une consommation tout azimut, à plein de déchets, parce que je trouve que c'est plus serein la vie comme ça, plus libre en fait.
La suite de votre feuilleton demain, Julie.
Avec une visite guidée de la maison de Céline, une maison qui s'est un petit peu transformée avec le zéro déchet. On va aborder aussi la question du coût. Est-ce que c'est plus cher finalement ou pas le zéro déchet ? Rendez-vous demain.
Vous avez aimé les crevettes bio, Camille ?
Les crevettes bio, quand on fait zéro déchet, bon, il y a quelques paradoxes.
Mais qui est parfait ? Qui est parfait ?
Tout le monde est en transition.
C'est bien la preuve.
Dans un instant, notre invité découverte. Il s'appelle René Rozou. Il est éco-éthologue, naturaliste et il publie un livre sur la loutre d'Europe. On fait connaissance avec cet animal dans un instant après Jeanne Haddad.
Also terrified, beyond quantified, over secluded and way over guarded. Also idolized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? Empty, my flesh is sold. History drained, my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and way over guarded. Also idolized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides?
Sides, Jeanne Haddad.
La Terre au carré. Mathieu Vidard.
Nous avons 14 dossiers de mammifères disparus. Que des prédateurs. Ça va d'un ours polaire géant à une toute petite loutre. C'est la priorité numéro 1.
Autochtone et mon fleuriste, presque un membre de la famille. Il voulait me parler d'une affaire importante. J'ai envoyé cette voiture le chercher pour l'amener chez moi. Mais il n'est jamais arrivé.
Parce qu'il a été attaqué.
Non, c'est lui qui a attaqué.
Otterton ?
Il a massacré la voiture, terrifié mon chauffeur qui a failli mourir.
Mais c'est une gentille petite loutre.
Mon enfant, on est peut-être évolué, mais au fond, on est toujours des animaux.
Voilà, et toutes les loutres ne sont pas petites et gentilles. On va en parler avec René Rozou. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes éco-éthologue, naturaliste et ancien conservateur du musée des sciences naturelles d'Orléans. Et donc, vous publiez avec Charles Lemarchand La loutre d'Europe chez Biotope Éditions. Vous aviez déjà croisé une loutre sur votre route, Camille?
Je n'ai jamais vu de loutre en vrai de ma vie.
Eh bien, moi non plus. Et on apprend plein de choses en lisant votre ouvrage, René Rozou. Il faut d'abord dire que ce livre, c'est la somme d'années, voire de décennies de travail pour vous, quand même. Hein.
Oui, c'est peut-être un quart de siècle de travail. Charles Lemarchand un peu plus jeune que moi,
ouais.
Mais en fait on a écrit ce livre à deux et donc on voulait un peu livrer tout ce qu'on savait sur l'espèce. On avait publié dans des revues scientifiques, mais bon, pour le grand public on n'avait rien fait,
ouais.
Ça nous paraissait important.
Mais moi, qu'est-ce pour qui moi, vous passionne c'est autant de... autour de la loutre alors? Pourquoi cet animal vous
l'aimez autant? Au début j'étais ornithologue, je ne m'intéressais pas spécialement à la loutre, mais quand je suis arrivé dans le Marais Poitevin comme biologiste au parc naturel, on connaissait très peu la loutre, il y en avait un peu partout. Et ouais. Donc, on a commencé à s'y intéresser. On a vu qu'en France, elle était très rare et que dans le Marais Poitevin, il en restait encore beaucoup. Et donc, on s'est dit, ça vaut la peine de la protéger, de mieux la connaître. C'est comme ça que ça a commencé.
Ouais.
Voilà, une espèce rare qu'on a redécouvert. Elle est nocturne, hein, donc c'est pour ça
que... Ah, c'est pour ça qu'on la croise pas. On va pas se baigner la nuit. On la trouve partout en France, d'ailleurs, ou
ah,
pas?
Non, non, loin de là. On peut dire globalement qu'elle est plutôt rare dans le nord de la France et dans le centre, et disons que dans la façade atlantique, de la Bretagne aux Pyrénées, il y en a, et dans le Massif central, et un peu ailleurs, mais bon,
oui.
Globalement, c'est là, les gros bastions, c'est ça. Façade atlantique et le Massif central.
Oui.
Voilà.
C'est une belle bête quand même, hein.
C'est une belle bête. Alors, elle a l'air sympathique, tout le monde croit. C'est une légende, un peu. On dit la loutre, elle est joueuse, etc. C'est
oui.
Ce qu'il y a dans l'esprit des enfants.
Vaut mieux pas mettre ses doigts, hein.
Les jeunes loutres, enfin, les loutres, j'ai encore 10 doigts, moi.
Ouais.
J'en ai capturé plusieurs, j'ai encore tous mes doigts, quand même.
Ouais, ouais, ouais.
Et donc, les jeunes loutres sont joueuses, évidemment, mais les adultes, elles ont autre chose à faire que de jouer. Elles se nourrissent, elles,
oui,
voilà,
ça
elles défendent
becter,
leur
hein.
territoire, etc. C'est, voilà.
Comment on capture une loutre? Vous dites vous en avez capturé, c'est facile.
C'est un mauvais souvenir pour moi, parce que j'ai eu des cheveux blancs pendant trois mois de temps.
À cause des loutres?
À cause des loutres, c'est hyper intelligent. On dit toujours que leur nard est très intelligent et rusé. La loutre, comme disent les vieux piégeurs, c'est 10 fois plus intelligent que
ah,
leur
oui,
nard,
c'est vrai
et beaucoup plus rusé. Donc il a fallu demander d'abord aux collègues anglo-saxons comment ils piégeaient les loutres,
ouais.
Quel type de piège ils utilisaient. On en a inventé nous-mêmes, on a mis peut-être une trentaine de pièges sur le terrain, de 6 modèles différents. Il a fallu 6 mois pour que je capture la première loutre, je commençais
ah ouais.
à désespérer.
Ah oui, vous étiez patient quand même.
On était obstinés.
Ouais. Oui. Donc votre première loutre, 6 mois.
Capturer, je dis bien capturer, pas piéger, ce ouais. sont des cages. Capturer une loutre comme faisaient les anciens, les piégeurs, c'est facile, c'est un piège à mâchoire, un piège en ciseaux dont on parlait, mais capturer vivant, c'est une cage énorme, avec deux trappes sur le côté. Elle ne mange pas d'appât mort, donc on peut pas mettre d'appât mort.
C'est que du poisson cru, hein.
C'est que du poisson cru vivant.
Oui, vivant,
c'est
ouais.
ça. Dans un piège, je mets pas de poisson vivant, évidemment.
C'est pas des sushis, oui.
Voilà. Donc c'était compliqué. Enfin, on en a eu quand même, mais voilà.
C'est un animal qui est protégé, c'est pour ça qu'évidemment vous devez les capturer vivantes. La loutre,
non,
c'est
pas ça. C'est que il est protégé, point. Donc on ne peut pas les tuer ni les capturer. Pour les capturer, j'ai dû demander une dérogation au ministère de l'Environnement.
Et en tant que scientifique, vous aviez eu ce droit-là.
On a eu ce droit-là, mais il y a d'autres scientifiques en France qui font des études sur les espèces protégées. C'est surtout celles-là qu'on étudie. Comme elles sont protégées, souvent elles sont rares. Elles disparaissent souvent, et donc c'est pour ça qu'on a eu l'autorisation de faire. Et donc, c'est protégé. Et donc, on ne peut pas les capturer, ni les tuer, ni même les ramasser sur la route entre nous quand elles sont mortes.
René Rozou, la loutre l'a échappé belle quand même, hein, parce qu'elle
oui.
a été chassée pendant très très longtemps.
Et exactement. Et pour nous, c'était une révélation, parce qu'on s'est dit dans les années 80, au début, on va pas y arriver, la loutre va disparaître, quoi, quand on a commencé à l'étudier.
Oui.
Et en fait, on s'est rendu compte progressivement qu'elle revenait. Et pour deux bonnes raisons, c'est qu'en 1972, elle a été interdite de chasse et de capture. Donc c'était une espèce gibier, mais qu'on ne pouvait pas tuer ni capturer, c'était déjà une bonne chose. Et ensuite, en 81, elle a été protégée intégralement. Et ça, je pense que ça a aidé énormément.
Oui. On l'a chassée évidemment pour sa fourrure.
On l'a chassée pour sa fourrure, oui. Surtout, jusque dans les années 40, c'était la fourrure. On faisait très peu de manteaux en loutre. On faisait surtout des cols et des manchons en peau. Mais c'était quand même une espèce recherchée pour la fourrure. Mais alors, on l'a tuée surtout parce qu'elle était consommatrice de poissons. Les pisciculteurs, les pêcheurs, ne supportait pas une loutre vivante. Et il faut savoir que dans les années 20, 1920, il y a eu une croisade contre la loutre en France. On a constitué la loutrerie française comme la louveterie française. Mmh. Donc on était parti pour l'éradiquer. Et ça a bien fait arriver d'ailleurs.
Ouais. Pourquoi la loutre, elle est utile dans la biodiversité comme tous les animaux? C'est quoi son rôle à elle?
C'est un mot que j'emploie jamais utile. Elle est là, elle existe, et voilà. Mais donc, elle a une fonction particulière. Elle est je ne fais pas de mauvaises remarques sur le vocabulaire. Mais utile, quand on dit utile, il y a forcément en face nuisible. Alors, du coup, elle a un rôle à jouer, dans la nature, et, notamment parce qu'elle est prédatrice. Mais, aucune loutre, par exemple, ne vient à vider un milieu, un écosystème de ses poissons. Le domaine vital est très grand. Et elle l'exploite un peu comme les Indiens, le domaine vital, par cantonnement. Donc elle n'est jamais au même endroit tout le temps.
Une bonne régulation, quoi.
Une bonne régulation, et elle n'épuise jamais son milieu. Donc vous voyez, quand une loutre est quelque part, sauf une pisciculture évidemment, on se rend même pas compte qu'elle est là, parce qu'elle ne fait pas de razzia dans les poissons, contrairement à ce qu'on disait dans les années 20, quoi.
Ouais. Ça nage une loutre? Ça nage comment?
Ça nage presque tout le temps. Alors, on a l'impression que c'est toujours...
Ah oui, il y a des nages différentes, d'ailleurs. Ça, oui, c'est assez marrant.
J'ai expliqué les nages. Alors, oui, à la télévision, on voit souvent la loutre de mer. La loutre en Californie, elle est sur le dos, elle mange les coquillages. Donc, on a toujours l'impression que notre loutre, à nous, elle se comporte comme ça. Et en fait, c'est pas la même. La loutre de mer vit toujours dans l'eau. Elle est quasiment en permanence dans l'eau. Et notre loutre, à nous, elle va à l'eau pour capturer du poisson, pour se déplacer. Et puis le reste du temps, elle est sur le sol, quoi. C'est un amphibie, pas un aquatique.
Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Et alors, du coup, on apprend aussi que il y a cette posture très particulière de la chandelle, c'est ça, pour la loutre. Vous l'avez souvent vu comme ça, on dirait un suricate un petit peu. Quand
vous l'imitez en même temps, Mathieu, c'est assez rigolo.
J'ai presque vu la loutre.
Mais voyez, j'essaie d'imiter la loutre.
Alors, si vous avez bien regardé, je dis bien cette position en chandelle.
Elle ne
le pratique que en captivité, parce que les soigneurs tendent la main avec le poisson, elle se met debout, elle fait la chandelle, et on met le poisson à bout de bras, parce que la loutre, elle mord parfois, donc c'est une mauvaise surprise. Et donc c'est surtout en captivité. Et dans la nature, elle peut le faire, évidemment, elle est capable de faire beaucoup de choses, mais c'est une attitude qu'on voit très rarement, pour ainsi dire jamais.
Oui. Alors justement, vous montrez au début une loutre de Guyane, d'Amazonie, c'est la géante d'Amazonie, c'est ça, impressionnante par sa taille et sa puissance. Ça, c'est un monstre, parce que la loutre, vous disiez, c'est 1m25 à peu près, hein, si on en voit en France.
Elle est plus grande.
Et celle d'Amazonie, elle fait combien?
Elle fait 1m70.
Ah oui?
Oui, elle est très grande. En plus, elle a une queue comme un triton allongée, et elle est très active, et elle vit en groupe. Vous savez, notre loutre d'Europe est souvent seule. On voit un mâle, une femelle de temps en temps, et parfois une femelle et des petits, mais la loutre géante d'Amazonie, elle vit en groupe. Alors quand on les voit dans une pirogue et qu'elle arrive près de vous, je vous assure...
Il faut s'inquiéter.
On parle plus, on la regarde, et puis c'est impressionnant.
C'est vrai.
Ça fait même peur, parce que vous avez vu la tête de la loutre géante d'Amazonie, c'est une tête un peu préhistorique.
Oui, elle est pas belle.
Je trouve qu'elle est belle, mais enfin, elle est impressionnante.
Oui. Elle attaque l'humain ou pas?
Il faut pas rentrer sur son territoire. Si vous arrivez en pirogue tout près de son territoire, vous mettez les mains dans l'eau, elle peut vous mordre.
D'accord.
Même si elle vous connaît pas, même si elle connaît pas l'homme, elle défend bien son... C'est un animal qui peut être agressif, mais aussi la loutre d'Europe.
Vous dites finalement, cet animal, il est porteur d'une histoire très positive. Et c'est vrai, c'est ce qu'on retient finalement, parce qu'on le disait, la loutre vraiment est passée très près de l'extinction, et aujourd'hui elle se porte bien quand même dans notre pays.
Oui, je dis positif certainement, mais pour moi c'est un messager, parce que la loutre d'Europe, on pensait qu'elle allait disparaître. C'est un animal qui, sur le plan écologique, est très exigeant. Mmh. Elle aime des eaux quand même non polluées, des eaux poissonneuses, évidemment. Et on se disait, dans les années 80, elle reviendra jamais spontanément. Il faudra même qu'on pense à la réintroduire. En fait, elle est revenue toute seule. Un, parce qu'elle était protégée. Et deuxièmement, parce que la qualité des eaux s'est améliorée largement, quand même, en France. Mmh. Et alors, il y a un phénomène qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'on a créé des tas de plans d'eau. Regardez les carrières, par exemple, sur la Loire. Il y a des carrières partout. Oui. Quand on remet les carrières en eau, qu'est-ce qu'on fait? Directement, on met des poissons dans toutes les communes. Il y a un petit étang communal de pêche, etc. Donc, ces milieux annexes.
C'est open bar pour la loutre.
C'est open bar pour la loutre. Et heureusement, on la voit pas. Donc elle se serre, on la voit pas trop. Et alors, vous disiez, c'est un animal messager, certainement, et un animal qui redonne espoir, parce que, alors qu'on pensait qu'elle allait disparaître, parce qu'elle était exigeante, elle est revenue quand même. Oui. Et donc, pour moi, c'est un espoir. Alors que toute la biodiversité disparaît pour l'instant, mais même nos petits oiseaux communs dans nos villages disparaissent. Et la loutre, elle revient, alors qu'elle était exigeante. Donc, je me dis que c'est peut-être un espoir et un message.
Oui. Puis vous savez quoi, positif. René Rouzou, ça fait du bien d'annoncer des bonnes nouvelles aussi de temps en temps. C'est pas si courant, oui. Hein, en particulier dans cette émission, quand même. Donc, ça nous fait plaisir de pouvoir dire que voilà, cet animal se porte bien, que vous l'aimez et qu'il y a plein de choses scientifiques à apprendre aussi à son sujet. Comme vous le faites d'ailleurs sur l'antenne de France Bleu Orléans le samedi et le dimanche à 11h45 dans votre rendez-vous Les Trésors Naturels du Centre. La Loutre d'Europe, j'offre ce livre à Camille.
Ah, je vous vais le mettre sur ma table de nuit.
Cet ouvrage chez Biotope Édition avec Charles Lemarchand. Merci beaucoup à vous, René Rouzou. Merci à Denis Delbecq qui était à la rédaction en chef de l'émission et Thierry Dupin pour la programmation musicale. Clément Berman et Philippe Duclos étaient à la technique.